France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que la prochaine COP qui se tiendra au Brésil dans quelques semaines approche à grands pas, alors que les sujets écologiques émergent difficilement dans l'actualité, quand la situation, elle, continue de se dégrader dramatiquement, une série de questions ce soir sur l'écologie. De quelle science s'agit-il? Que mesure-t-elle? Pourquoi a-t-on du mal à la penser comme une science à part et à part entière? Et quelle est la responsabilité singulière du chercheur en écologie? Pour nous éclairer ce soir, un invité, Sébastien Barraud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et l'auteur d'un ouvrage qui a paru chez Belin intitulé « L'écologie est une science ». Merci d'être présent ce soir dans Question du Soir.
Près de 180 bombes carbone supplémentaires ont été recensées par les ONG depuis 2021, alors même que l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faut arrêter de forer de nouveaux puits. Si on regarde cette nouvelle carte, on en voit partout, sur tous les continents. Quasiment la moitié de ces projets sont en Chine à cause du charbon, mais il y a aussi des projets pétroliers au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, du gaz en Afrique, aux États-Unis. Les ONG accusent les entreprises du secteur. Total Energy, numéro 2 sur le podium, notamment à cause de son projet de forage de pétrole en Ouganda ou de gaz au Mozambique. Et les banques, elles ont débloqué 1600 milliards de dollars depuis 4 ans pour financer ces projets. Les ONG appellent les États à arrêter les frais, car si l'ensemble de ces projets sont exploités jusqu'au bout, ils émettront 11 fois trop de carbone par rapport aux engagements pris lors de l'accord de Paris, c'était il y a 10 ans.
Célia Quilleret sur France Inter, et lorsqu'on observe, décortique même ce terme, cette expression de bombe carbone, on se dit que tout de même l'actualité en matière d'écologie a du mal à émerger. Cela fait des semaines qu'on entend très très peu parler d'écologie dans les médias, dans les unes de la presse. Faut-il désormais faire de la communication plus que jamais pour permettre à ces sujets de voir le jour, d'être mis dans la lumière, Sébastien Barraud, alors que, je le rappelle, la situation chaque jour se dégrade un peu plus d'une manière dramatique?
Je pense que la communication est indispensable, que ce soit pour la crise climatique ou la crise de la biodiversité. Finalement, ces deux crises sont imbriquées et en fait subissent un peu le même traitement. Alors souvent, quand on est chercheur en écologie, on a tendance à penser qu'on parle un peu trop de climat et pas assez de biodiversité.
On va y revenir.
Mais en fait, il faut parler des deux. Et du coup, le propos de mon livre, c'est justement... Alors, je pense que je présente la crise de la biodiversité, j'explique à quel point c'est dramatique, mais je pense que j'en fais pas des tonnes dans la dramatisation. Le propos, c'est d'essayer d'expliquer vraiment les mécanismes, comment ça marche, comment les espèces interagissent, comment les écosystèmes fonctionnent, pour donner des bases, pour comprendre et agir. Et du coup, voilà, c'est de la communication, mais plus sur les bases des fonctionnements écologiques et de la biodiversité.
Je rebondis alors sur ce que vous disiez à l'instant. Pourquoi parle-t-on bien plus de climat que de biodiversité? Est-ce que, tout simplement, le climat est plus facile à appréhender parce qu'on parle de grandes masses, parce que les mécanismes sont peut-être plus simples à expliciter, ou bien pour d'autres raisons?
Alors, je pense que la crise climatique est déjà tangible pour la vie d'une partie des êtres humains. Quand on a une tempête qui nous tombe dessus et que les climatologues expliquent que elle avait beaucoup plus de chances de survenir avec le changement climatique que sans le changement climatique, quand on a des sécheresses très fortes et qu'on voit les rendements agricoles diminuer, etc., on a des effets très tangibles. Et les effets de la biodiversité, ils commencent à l'être, mais ils sont un peu plus lointains. Et je pense que le climat, c'est quelque chose de très compliqué, mais d'une certaine manière, on a des unités et des variables plus simples, entre guillemets, ce qui est des tonnes d'émissions de CO2.
Les gaz à effet de serre.
Des degrés, des fractions de degrés qui augmentent en moyenne à la surface de la Terre. Et en fait, la biodiversité, c'est un objet... Alors, on fait des efforts pour essayer de le simplifier, de le rendre plus intelligible, mais typiquement, la biodiversité, c'est de la diversité génétique. Donc, on regarde à l'intérieur des espèces la diversité des gènes, la diversité des espèces. Ensuite, on peut regarder la diversité des espèces, mais c'est intéressant de regarder la diversité des fonctions qu'elles remplissent, en fait, comment elles fonctionnent et la diversité de ces fonctionnements. Et puis ensuite, comprendre comment ça contraint, explique le fonctionnement des écosystèmes. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Et quand on regarde la crise de la biodiversité, il faut regarder comment la biodiversité génétique est érodée par les activités humaines, comment la diversité spécifique, le nombre d'espèces est érodée. Ensuite, il faut regarder comment les abondances des espèces sont érodés et comment les écosystèmes sont transformés, comment leur fonctionnement se dégrade. Et donc ça fait déjà tout un tas de variables à prendre en compte et c'est pas forcément facile à expliquer.
On connaissait, Sébastien Barrault, le climato-scepticisme. Vous mettez en lumière un autre scepticisme, la biodiversité-scepticisme. Alors, qu'est-ce qui différencie l'un et l'autre au-delà de leurs objets? Et j'allais dire, pourquoi peut-être la biodiversité-scepticisme est-elle plus dangereuse que le premier?
Alors, je pense que les deux sont aussi dangereux l'un que l'autre. Et en fait, c'est en partie les mêmes personnes qui font preuve de ces deux types de scepticisme. Un des points communs, c'est que c'est quand même des attaques contre la science. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux, en tant que scientifique, je peux pas dire exactement à la société ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire, mais je peux dire que dans telle direction, on va avoir tel problème, etc. Et du coup, ces formes de scepticisme, que ce soit pour le climat ou pour la biodiversité, ça va contre la science et, en gros, l'état des connaissances qui est accepté par l'ensemble de la communauté. Et ensuite, je pense que c'est un peu les mêmes ressorts de alors il y a des gens qui font preuve de ces formes de scepticisme parce qu'ils ont des intérêts, évidemment les pétroliers, ils ont pas intérêt à être clairs sur leur rôle dans la crise du climat, et les gens qui produisent des pesticides ou qui ont des intérêts dans les pesticides, ils ont pas intérêt à accepter qu'il y a une crise de la biodiversité et que les pesticides sont sans doute très fortement impliqués dans cette crise.
Mais ce biodiversité scepticisme, il s'incarne d'une manière aussi très très concrète en France lorsque l'OFB, l'Office français de la biodiversité, subit des attaques massives, importantes des responsables politiques, lorsqu'une agence comme l'ADEME subit également une forme d'attaque régulière de la part de dirigeants importants. Est-ce que vous rangez ces attaques dans ce que vous appelez le scepticisme qui concerne la biodiversité?
Oui, alors ce que je dirais, c'est qu'il y a deux niveaux. C'est que je pense que ces attaques sont sous-tendues un peu par ces formes de scepticisme. Et après, c'est aussi des attaques contre des agences de l'État qui ont des rôles importants, a priori. Et du coup, il y a aussi... une méconnaissance du rôle important de ces agences. Et c'est aussi... En fait, c'est aussi des attaques contre la régulation, contre l'État. Et du coup, avant le journal, vous parliez de ce qui se passe aux États-Unis, et ça relève un peu de ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça que c'est assez inquiétant.
Comment est-ce que vous définissez, là aussi, très concrètement, ce qu'est la science écologique? Une définition qui est au cœur de votre dernier ouvrage.
C'est important de revenir là-dessus. C'est que, l'écologie, c'est la science qui étudie les interactions entre les organismes vivants et aussi entre les organismes vivants et leur milieu physico-chimique. Et du coup, c'est important parce que, typiquement, le climat, on parlait du climat. Le climat, ça impacte les organismes vivants, mais les organismes vivants, les écosystèmes, rétroagissent sur le climat, impactent le climat en, par exemple, fixant plus ou moins de CO2.
L'une des raisons pour laquelle il est peut-être difficile de définir la science écologique en tant que telle, en tout cas l'une de vos hypothèses, c'est que, j'allais dire, c'est une science qui vient grappiller un peu partout chez les autres sciences et que par conséquent, c'est difficile de lui dessiner, de lui définir un précaré.
Oui, alors moi je suis souvent un peu surpris parce que quelquefois j'ai des collègues, enfin je vois dans les médias, qui pour moi sont écologues, chercheurs en écologie, et sont présentés comme biologistes. Et en fait, de la définition que je viens de présenter, l'écologie est en fait à cheval entre la biologie, à l'interface entre la biologie et les sciences de l'univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de connaître comment une plante pousse, et du coup on a besoin de connaître les bases de la photosynthèse par exemple, mais on a aussi besoin de connaître les interactions avec le milieu physico-chimique. Les sols, la physico-chimie des sols, l'atmosphère, les gaz, etc. Et du coup, effectivement, on est obligé de piocher dans plein de sciences. Et du coup, ça ne renforce pas notre visibilité.
Ce qui est par ailleurs important de préciser, c'est que les sciences écologiques sont des sciences récentes. Elles émergent dans les années 40, 50 aux États-Unis, dans les années 70 en France. Cela met du temps à se structurer quand on est une discipline naissante également.
Oui, tout à fait. Alors en plus, c'est arrivé un peu plus tardivement en France qu'ailleurs. Ça participe un peu à cette difficulté de faire passer nos messages, et y compris dans le monde académique, c'est parfois difficile de prendre de la place, de donner des enseignements en écologie, d'obtenir des financements, etc.
L'écologisme doit être distingué de l'écologie pour que celle-ci conserve sa crédibilité, dites-vous, écrivez-vous, expliquez-nous pourquoi.
Alors en fait, un des messages principaux de mon livre, c'est bien de défendre l'écologie comme science, et du coup, d'où le titre. Mais en même temps, c'est une science qui sous-tend à 100% les courants écologistes, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde les courants écologistes un peu sérieux qui se basent sur les données, ben en fait, ils se basent sur la science écologique et du coup, on les supporte complètement. Et du coup, j'ai envie de faire la différence entre les deux, y compris pour montrer que c'est pas juste de l'idéologie. Mais voilà, ça reste une science, mais qui supporte les courants environnementalistes.
Mais si vous distinguez bien les deux, Sébastien Barraud, quelle éthique vous vous fixez à vous-même ? Est-ce que, en tant que chercheur, vous vous permettez, j'allais dire, de franchir cette frontière, de militer parfois dans la sphère privée sur les questions écologistes ? Ou bien vous estimez que le rôle du chercheur, c'est d'être, j'allais dire, d'apporter des connaissances, mais surtout pas de militer, car il pourrait y avoir un mélange des genres ?
Alors c'est un débat qui est très important, qui a beaucoup monté ces dernières années. Alors, une première réponse, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que...
Vous n'avez pas le choix de militer ?
J'ai pas le choix de sortir de mon laboratoire pour communiquer sur les résultats qu'on trouve dans nos laboratoires, donc de venir à la maison de la radio, d'écrire un livre, parce qu'on voit bien que ça avance pas assez vite, et on voit bien qu'un des freins à la prise en compte de la crise climatique et de la crise de la biodiversité, c'est le manque de connaissances, le manque de culture sur le fonctionnement du climat, le fonctionnement de la biodiversité.
Mais là, c'est de la pédagogie, de la vulgarisation, pour vous une forme de militantisme ?
Pour moi, c'est de la pédagogie, et quelque part, je suis payé par l'État français, je suis fonctionnaire. Mon organisme de recherche, c'est un organisme public, et ça me paraît normal qu'étant payé par l'État, je retourne vers la société, je retourne vers le grand public pour apporter ce que je peux apporter, transmettre ce que j'ai trouvé dans mon laboratoire. Donc pour moi, au départ, c'est pas du tout du militantisme, c'est juste un juste retour des choses et de la pédagogie.
Pour bien comprendre ce que peuvent les sciences écologie, je voudrais qu'on s'intéresse à un domaine en particulier, celui de l'agriculture, qui est au cœur là aussi de votre ouvrage intitulé « L'écologie est une science » qui vient de paraître aux éditions Belin. Pourquoi avoir choisi cet exemple-là, l'agriculture ? Est-ce qu'il permet peut-être de mieux expliquer les choses et surtout de mettre en lumière certains paradoxes inhérents aux sciences écologistes ?
Alors, un des objectifs du livre, c'est d'abord d'expliquer l'écologie comme science et aussi de montrer à quoi elle peut servir. Et du coup, ce que j'explique, c'est qu'elle peut servir justement pour l'agriculture. D'une certaine manière, on peut voir l'agriculture comme la manipulation de systèmes écologiques. Finalement, un agriculteur, il manipule des plantes, un sol, il a un certain nombre de pratiques pour manipuler ça au mieux pour produire de la nourriture. Et du coup, ce que je dis, c'est que l'écologie peut dire des choses intéressantes là-dessus. Et typiquement, si on regarde la somme des connaissances produites, alors en écologie, mais aussi en agronomie, etc., cette somme de connaissances montre que le système agricole, intensif, basé sur beaucoup d'intrants, qui est un système dominant en France, c'est pas un système durable. Et du coup, dans ce cadre-là, l'écologie peut proposer des pistes de solutions. En gros, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, prendre en compte les connaissances qu'on a sur les interactions entre les sols, les organismes des sols, les bestioles qui vont attaquer les plantes, etc., pour essayer de rendre ça plus durable.
Vous êtes allé très très vite, Sébastien Barraud. Vous nous avez dit deux choses. D'abord, la science écologique permet de dresser un constat, de mesurer les effets des pratiques humaines sur la biodiversité, l'effet des modèles agricoles sur la biodiversité, c'est une première chose. Et une seconde, les sciences écologiques permettent de proposer des solutions. Restons un instant sur la première dimension. Comment est-ce que la science écologique permet de constater que notre modèle agricole, nos modèles agricoles ne sont pas durables ?
Alors, si on regarde par exemple les rapports de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, on voit que la première pression sur la biodiversité, c'est en fait les changements d'usage des sols, la transformation des écosystèmes naturels. Et évidemment, alors l'urbanisation est une des causes de cette transformation des écosystèmes naturels, mais l'agriculture est une des causes les plus importantes. La déforestation, c'est en grande partie pour dégager des terres cultivables pour produire de la nourriture en général. Ça, c'est une première mesure de l'impact de l'agriculture. Alors, ce que je dois dire aussi, c'est que c'est normal qu'on ait cet impact. J'ai besoin de manger, l'ensemble des êtres humains ont besoin de manger. Donc, il faut accepter une part de ces impacts, mais par contre, il faut les rationaliser pour que ça reste durable. Alors, du coup, c'est plutôt climat, mais un des impacts qui est très très clair de l'agriculture, c'est qu'elle produit de 20 à 25% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et donc, on sait qu'il faut impérativement réduire ces émissions pour réduire le changement climatique. Quand on parle de durabilité, quand je dis que l'agriculture, certains modèles agricoles sont pas durables, ça veut dire que si on continue comme ça, le modèle va plus pouvoir nous nourrir. Donc, par exemple, si on détruit avec les pesticides les pollinisateurs, on n'aura plus de fruits, on n'aura plus de légumes. Si on détruit les sols, il y a de plus en plus de données qui montrent que les sols agricoles à l'échelle mondiale sont dégradés par l'érosion, par les pertes de matière organique. On ne pourra pas continuer à cultiver ces sols. Et comme pour les énergies fossiles, l'agriculture est aussi basée, par exemple, sur l'exploitation des mines de phosphate. En gros, pour les engrais phosphorés. Et ces mines, forcément, elles sont surexploitées et un jour, il n'y aura plus de phosphate à exploiter. Et du coup, mathématiquement, physiquement, le modèle agricole basé sur ces engrais va s'éteindre.
Ce que les sciences écologiques permettent également de mettre en lumière, c'est un cycle paradoxal. Vous écrivez, l'agriculture est elle-même frappée de plein fouet par le changement climatique qu'elle contribue à provoquer. C'est, dans le fond, une chaîne sans fin.
Oui, c'est ça le problème. Et le but d'injecter de l'agroécologie, de la durabilité là-dedans, c'est de briser cette chaîne sans fin qui montre qu'on va pas pouvoir continuer à nous nourrir comme ça.
Comment les sciences écologiques, vous avez commencé à en parler, comment les sciences écologiques permettent-elles par ailleurs d'apporter, de proposer des solutions ?
Alors c'est ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'appelle l'ingénierie écologique, c'est ce qu'on appelle aussi maintenant les solutions fondées sur la nature. L'idée c'est d'exploiter au mieux les mécanismes de régulation écologique pour remplacer des sources, des ressources non renouvelables, du travail humain, etc. Donc typiquement... un des acquis de l'écologie, c'est de montrer que augmenter la biodiversité, ne pas avoir un écosystème trop simple en termes de nombre d'espèces, diversité génétique à l'intérieur de ces espèces, c'est une bonne façon d'avoir un écosystème qui fonctionne bien. Et typiquement, il y a beaucoup d'expériences qui montrent que quand on a plein d'espèces de plantes à un endroit, la prairie, la forêt va mieux produire et va être plus résistante à différents aléas. Et du coup, une des pistes qu'on développe en agroécologie, c'est la diversification des cultures. Donc se dire que dans un champ de blé, il ne faut pas qu'il y ait une seule variété de blé, il faut qu'il y ait plein de variétés de blé. Éventuellement, on peut même mixer du blé avec des plantes légumineuses. On peut mettre des bandes de prairies au milieu du champ de blé. On peut rajouter des arbres et ça donne de l'agroforesterie. Et donc tout ça, c'est des formes de diversification qui utilisent les interactions entre espèces et l'idée que mélanger des espèces, ça va conduire à des modes de régulation écologique. Et du coup, ça permettra de diminuer les pesticides, diminuer les engrais, etc.
Ce que vous expliquez très bien, par ailleurs, Sébastien Barrault, c'est que cette ingénierie écologique, pour reprendre l'expression que vous venez d'employer, pose des problèmes éthiques. Je vous cite, l'existence du champ de l'écologie de la restauration, c'est son autre nom, ne peut absolument pas justifier, dans le présent, la détérioration d'un écosystème par nos activités, sous prétexte qu'on pourra le restaurer dans le futur. Fin de citation. C'est vrai qu'il y a une forme d'aléa moral dans ce domaine. On se dit... si l'environnement que je détruis peut être restauré demain, au fond, ce que je produis aujourd'hui, ce n'est pas si grave.
Alors, le premier niveau, c'est que quand je dis, l'écologie peut proposer des solutions, je pense qu'il faut aller dans cette direction, il faut être très humble et prendre très nombreuses précautions pour pas faire n'importe quoi. Alors, c'est des choses qu'on sait bien maintenant, mais on a trop souvent introduit des espèces à des endroits où elles devenaient invasives et causaient des catastrophes, donc ça, il faut éviter. Et puis, effectivement, il faut éviter cette espèce d'emballement dont vous parliez, c'est pas parce qu'on est capable de restaurer un écosystème qu'il faut détruire des écosystèmes. Et en plus, quand on commence à regarder de près, on est capable de restaurer des écosystèmes, mais probablement pas à l'identique de ce qu'il y avait avant. Et si on veut vraiment quelque chose d'identique, il faut vraiment sans doute beaucoup de temps. Donc il faut évidemment pas aller dans cette direction, et ça me fait penser, ça serait presque une forme de technosolutionnisme en fait. C'est il faut pas imaginer l'écologie et les applications de l'écologie comme des solutions miracles qui vont tout résoudre. Et par exemple, pour arriver à résoudre notre crise de la biodiversité et aussi la crise climatique, il faut employer des méthodes vertueuses basées sur l'écologie, etc. Mais il faut aussi diminuer la consommation, toute la consommation. Il faut diminuer la consommation de viande. Tout un tas de choses qui poussent vers un peu une certaine sobriété. Et sans combiner ces choses-là, on n'arrivera pas à s'en sortir.
Vous avez parlé de technosolutionnisme, le discours qui consiste à miser très très largement sur la technologie pour nous permettre de faire face à la crise climatique et à la crise de la biodiversité. C'est un discours que l'on entend de plus en plus, cette idée selon laquelle, heureusement, la technologie nous sauvera un jour ou l'autre. Comment les sciences écologiques abordent cette question-là ?
Je pense que c'est une question fondamentale parce que tout au début de l'émission, on parlait de biodiversité scepticisme. Donc ça, c'est un des blocages, on va dire. Et un autre blocage, c'est le technosolutionnisme, dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens qui ont fini par comprendre que la crise climatique était très forte, que la crise de la biodiversité était un problème dramatique. Et du coup, on pense que qu'il va y avoir des solutions technologiques. Et évidemment, la technologie fait partie des solutions. Mmh. On a besoin de technologie pour, par exemple, en agriculture, l'idée, c'est quand même de maintenir une agriculture mécanisée avec des tracteurs, etc. Par contre, il faut raisonner ces usages et choisir les technologies qui vont avoir le meilleur rapport coût-bénéfice, qui vont avoir un bénéfice en termes de production et pas trop d'impact négatif sur la biodiversité et le climat.
Si je tire le fil de ce que vous dites, vous défendez dans votre ouvrage la science, mais vous ne défendez pas toutes les sciences et tous les scientifiques. Je vous cite une nouvelle fois, des chercheurs et des courants entiers de recherche ont aussi d'une certaine façon accéléré la crise environnementale en développant certaines technologies comme la société, des entreprises, les États qui les paient, leur demandaient. Par exemple, les pesticides sont conçus par des chercheurs, point d'exclamation. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance dans tous les scientifiques et dans tous les travaux de recherche ?
Oui, alors effectivement, je veux dire, c'est aussi des chercheurs qui ont créé des pesticides, qui créent les bombes et les nouvelles technologies qui servent à tuer des êtres humains. Alors il y a une façon de se défendre, c'est de dire, oui, les chercheurs, ils proposent des choses et après c'est la société qui dispose. Après, je pense que de plus en plus, dans le cadre un peu des questions qu'on posait tout à l'heure sur l'engagement des chercheurs, etc., je pense que de plus en plus, il faut qu'on ait des positions éthiques un peu plus rigoureuse, un peu plus stricte, et du coup faire les choix de recherche qui vont dans les bonnes directions.
Aujourd'hui, ces règles, elles ne sont pas strictes. L'éthique que vous fixez à vous-même, de quoi dépend-elle dans le fond de votre bonne volonté ?
Alors, déjà, ça dépend des financements de la recherche. Et les financements, il y a beaucoup de discussions sur comment on doit financer la recherche. Pour le moment, les recherches sont financées essentiellement par le public. Et alors, ça marche relativement bien. Mais même là, on pourrait regretter qu'il n'y ait pas eu plus rapidement et plus massivement des investissements pour des recherches sur l'agriculture, les formes alternatives d'agriculture, l'agroécologie. Et ensuite, il y a un certain nombre de chercheurs aussi qui peuvent être coincés par les financements publics qui sont pas suffisants et qui du coup se tournent vers le privé. Donc ça pose tout un tas de questions éthiques. Et puis, je pense que globalement, dans le milieu de la recherche, y a une partie des gens qui se posent peu de questions éthiques. On est assez peu formé à l'épistémologie, à l'éthique, et on est souvent... il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en gros, on est souvent un peu le nez dans le guidon pour notre prochaine publication qui va nous permettre d'acquérir des nouveaux financements, qui vont nous permettre de faire une autre publication dans une super grande revue. Et du coup, moi-même, mais collectivement, on peut être un peu le nez dans le guidon et... Bon, on a des réflexions éthiques, mais sans doute insuffisantes.
Je vous cite une nouvelle fois Sébastien Barrault, toujours sur les façons de penser des solutions face à cette crise climatique et de la biodiversité. Vous écrivez « Certains pensent sans doute à juste titre que cette capacité à nous mettre en retrait serait une preuve de notre humanité, puisque justement toutes les autres espèces exploitent les ressources dont elles ont besoin au maximum de leur capacité et de ce qui est rendu possible par les régulations écologiques. » Nous mettre en retrait, pour vous, c'est une solution potentielle? Qu'est-ce que vous voulez dire par
Alors,
là?
Alors, ce que je veux dire par là, c'est que une première étape, c'est de rendre nos activités durables. Donc, typiquement, pour l'agriculture, le modèle intensif n'est pas durable et un jour, ça va s'effondrer. Donc, c'est la première étape et c'est une première étape qui vise le maintien des sociétés humaines. Quand on dit que l'agriculture n'est pas durable ou que la crise climatique menace nos sociétés, c'est vraiment qu'à un moment donné, il y a un risque d'effondrement des sociétés humaines. Donc, on vise les humains. Mais à un moment donné, pour des raisons éthiques, on pourrait se dire, bah, ok, on a un système qui est durable, ça permet de maintenir des êtres humains entre guillemets à l'équilibre avec des écosystèmes, des systèmes agricoles. Mais pour des raisons éthiques, on pourrait se dire, on n'a pas absolument besoin, les sociétés humaines n'ont pas absolument besoin d'éléphants, n'ont pas absolument besoin d'orang-outans, n'ont pas absolument besoin des milliers d'espèces d'insectes, c'est des centaines de milliers d'espèces d'insectes qu'il y a, mais on veut leur laisser de la place parce que on n'a pas le droit de les détruire, en fait, pour des raisons purement éthiques, morales, indépendamment de nos objectifs de maintenir les sociétés humaines. Et les deux m'intéressent.
Merci beaucoup Sébastien Barrault. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement. Et je rappelle également le titre de l'ouvrage qui paraît aux éditions Belin. Il est intitulé « L'écologie est une science ». Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Merci de l'invitation.